Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, rencontre philosophique animée par Catherine Guilherme, philosophe. La rencontre philosophique est intitulée H.P. Blavatsky, spirituel et rebelle. Bonne écoute!
Bien, merci pour cette petite introduction en musique et en images. Alors tout d'abord, à nouveau, bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour l'aventure de la vie de Madame Blavatsky. Je pense que la chose la plus spéciale ce soir, c'est de pouvoir parler d'elle. Et je pense que c'est un honneur pour moi, en fait, de pouvoir parler d'elle, et ça fait longtemps qu'elle nous accompagne, en tout cas à Nouvelle Acropole, puisque évidemment ses écrits sont nos sources, et donc on va pouvoir parler un peu d'elle, de cette dame qui aussi se faisait appeler HPB. Je ne sais pas si j'ai le bon angle. Ah. Voilà. Alors, peut-être que d'abord, avant de rentrer à l'intérieur de sa vie, on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et envers qui elle a eu tant d'influence. Donc j'ai mis quelques images pour nous mettre dans l'ambiance, et ensuite on va pouvoir raconter un peu son histoire. J'aimerais savoir dans la salle s'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Madame Blavatsky. Pas du tout. Ah, intéressant. Pas du tout. Et ceux qui ont entendu parler ou qui ont lu, il y en a qui ont lu un peu. Ah, ouais. C'est bien. Alors donc, pour certains, c'est une grosse découverte, et pour d'autres, c'est rentrer un petit peu plus en profondeur. Alors, le titre « Rebelle et spirituel » peut paraître surprenant, mais vous allez voir tout au long de la soirée, nous allons parler de ça. Et c'est vrai qu'elle était très rebelle, et sa rébellion va se faire dans une œuvre tout à fait particulière. Alors, un peu quelques photos très, évidemment, très anciennes, puisque elle est née en 1831 et va décéder en 1891. Alors ici, elle est très jeune, ici aussi. Et ensuite, c'est la photo que l'on connaît le mieux, avec cette position-là incroyable et le regard très perçant. Hein? On va y revenir à tout ça. Alors, juste pour se mettre dans l'ambiance, elle a influencé beaucoup de personnalités dont on n'est pas tout le temps au courant. Et notamment, elle a influencé quelques fondateurs de l'art abstrait qui, en fait, quand on regarde ceci ou ceci, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est la relation? Soit ces fondateurs avaient assisté à quelques cours de Madame Blavatsky, ou étaient inspirés par ses écrits. Et ce qui est intéressant, c'est pour eux, il fallait se désengager de la matière. Donc déjà, ça voulait dire que l'art abstrait, fin du 19e siècle, début du 20e, avait pour mission de pouvoir se dégager de toute la représentation que l'on faisait, vous savez, des fruits, une pomme sur la table, etc., qu'on trouvait un peu trop matériel. Et c'était pour donner un élan et amener l'art dans un message qui n'était pas simplement un message représentatif, mais un message symbolique, et un message qui allait parler de ce qui est autre chose que la matière avec laquelle on est toujours, disons, en contact dans notre quotidien. Et peut-être, je ne sais pas si tous vous savez, mais Émile Icard, hein, avait étudié la théosophie, je pense, pendant 3 ans, hein, qui est une artiste canadienne. Bon, elle, c'est un peu différent, son type d'art, mais tout est en mouvement, par exemple. Alors, on continue. D'autres personnalités. Alors, ça, c'était la partie artistique. Il y a la partie plus scientifique qu'elle a pu influencer. Donc on a ici Maspero, ici Thomas Edison et ici Einstein. On a su ça quand, un siècle plus tard, hein, parce qu'on ne l'a pas su tout de suite, c'était en 1991, pour le centenaire de sa désincarnation, il y a eu une demande de faire une bibliographie sérieuse par quelqu'un qui ne connaissait pas Madame Blavatsky. Et ça a été vraiment très intéressant. Normalement, il y aurait dû y avoir un film qui devait sortir, mais n'a jamais eu lieu. Et c'est comme ça qu'on a appris au fur et à mesure tous ceux qui soit avaient rencontré Madame Blavatsky ou qui avaient lu la fameuse doctrine secrète. Et on l'avait su sur le tard que Einstein avait la doctrine secrète sur sa table de travail. Et n'oublions pas que la base de tout son travail, de toute sa recherche, c'est « tout est énergie ». Et que l'on retrouve très très bien dans les écrits de Madame Blavatsky, mais évidemment transmis d'une manière différente, et on en parlera aussi tout à l'heure. Alors Maspero, Crookes, Flammarion, Edison, Einstein, entre autres, sont donc des personnes qui ont été influencées par Madame Blavatsky. Pour aussi Gandhi, bien que le film sur Gandhi ne le mentionne pas, mais on verra tout à l'heure pourquoi, hein, tout ceci a été occulté. Mais il est ici en compagnie d'autres théosophes. Et voilà ce qu'il a écrit. La théosophie, c'est l'hindouisme dans ce qu'il y a de meilleur. La petite anecdote avec Gandhi. À ce moment-là, Madame Blavatsky était à Londres. Et elle était et elle faisait tout ce qu'on appelait les consultations, mais c'était les consultations comme là. Hein. On venait lui poser des questions et elle répondait à tout ce qu'elle pouvait. Et Gandhi avait été invité par un ami. À l'époque, Gandhi voulait devenir avocat et fuyait en fait l'Inde, qu'il considérait comme un pays peu avancé, peu évolué. Et quand il a l'occasion de parler à Madame Blavatsky, et qu'il ironise un petit peu sur l'Inde, alors elle lui tend un texte et elle lui dit « Lisez-le, quand vous l'aurez lu, revenez me voir. » Et ce fameux texte, c'est la Bhagavad Gita, hein, qui est le texte, un extrait du Mahabharata, qui est absolument incroyable. Et évidemment, à partir de ce moment-là, Gandhi va retrouver les racines spirituelles de son pays, de sa culture. Alors, et le reste, vous connaissez ce qu'il va faire. Il y en a d'autres aussi qui ont parlé de Madame Blavatsky. On ne va pas lire tout ça, ce n'est pas nécessaire, mais je voulais le mettre parce que... comme on aura certainement l'occasion d'en parler, elle a été très, disons, on l'a traitée de tous les noms, cette pauvre Madame Blavatsky, et il faut savoir, bon, Evan Wenz, c'est celui, effectivement, il est connu parce que c'est lui qui a apporté la traduction du Bardo Todol, c'est-à-dire du Livre des morts tibétains en Occident. Alors, en faisant la traduction, tout d'un coup, on découvre cet ouvrage d'une importance considérable. Il y a deux livres très importants dans le domaine, qui sont le Livre des morts tibétains et le Livre des morts égyptiens. Et le Livre des morts tibétains, va connaître évidemment un essor incroyable. Ça va être comme un best-seller pour l'époque. Et il dit, alors si vous avez la bonne édition, vous allez voir qu'à la fin, c'est dans l'introduction, il dit ceci, hein, qu'elle devait certainement avoir reçu un enseignement lamaïque élevé, lamaïque voulant dire du lama, c'est-à-dire initiatique. Et ensuite, Suzuki, qui lui est le fameux auteur de tout ce qui touche, tout ce qui touchait au bouddhisme zen, donc il va dire sans aucun doute Madame Blavatsky a été initiée. Ensuite, il y a eu le 9e Panchen Lama, qui est la deuxième autorité la plus importante au Tibet, autorité spirituelle et autorité religieuse, et qui va dire la même chose, notamment à propos du fait qu'elle va rapporter ce texte, La Voix du Silence. Et à l'époque, elle ne pouvait pas le prendre sous forme de papier. Parce que rien ne pouvait sortir des monastères. Et donc, elle avait appris complètement 39 préceptes sur 90. On va voir tout à l'heure des petits extraits pour vous donner une idée. Mais c'était quoi cette mémoire phénoménale ? Et donc, La Voix du Silence est effectivement, on y reviendra, un des textes assez percutants et qui était dédié pour ses disciples, puisqu'elle va avoir effectivement des disciples et elle va leur amener ce texte incroyable qui donne la méthode, en fait, pour avancer et pour travailler à l'intérieur de soi-même. Donc, c'est un texte initiatique. Alors, ce qui est incroyable, c'est que nous qui ne sommes pas des initiés, on peut y accéder. Dans notre premier cycle de philosophie, nous parlons un peu de ce texte et on l'étudie un peu. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle a pu nous l'apporter. Et puis, une chose aussi que peut-être certains savent déjà, c'est qu'Elvis Presley, avant chaque concert, lisait quelques extraits, quelques stances. Disons, à ces musiciens. Alors, c'est quand même étrange, non ? Puisque quand même, c'était du rock'n'roll qu'il jouait. Il faut le savoir, c'est qu'à lui, durant sa vie, il va vouloir faire quelque chose d'œcuménique, puisqu'il va acheter une terre. Et son rêve, c'était que toutes les religions se rencontrent. Donc, comme quoi, jamais se fier aux apparences. Voilà quelques écrits que peut-être certains ont osé ouvrir. Évidemment, l'œuvre, c'est celle-ci, puisque nous avons 6 tomes. Et quand elle a commencé à écrire la doctrine secrète, à peine ça sort des imprimeries, que tout était vendu. Pour l'époque, c'est quand même pas mal. Hein. Aujourd'hui, un écrivain rêverait de cela. Et l'original est préservé dans une chambre spéciale au British Museum. Et qu'on ne peut pas voir comme ça, il faut avoir des lettres de recommandation pour pouvoir accéder à la copie originale. Donc c'est intéressant tout ça, toutes ces données-là. Donc c'est énorme tout ce qu'elle a pu écrire ici. Collecting Writings, c'est tous les articles, tous les dialogues aussi qui ont pu être faits. Donc beaucoup, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour apporter à l'Occident, aux Occidentaux, une dimension définitivement spirituelle qui n'était pas seulement orientale. Et ça, on va aussi en reparler. Alors, nous avons pu introduire un petit peu son influence, mais ce serait quand même intéressant de revoir un petit peu sa vie. Et puis ensuite, nous aborderons ses conceptions, sa vision, qui est majeure, en fait, pour nous, aujourd'hui. Alors, elle naît en 1831 dans une famille d'aristocrates russes. Donc, la vie lui est relativement facile. Mais curieusement, elle n'aime pas toutes les conventions aristocratiques qui pour elle sont trop lourdes. Et donc très rapidement, elle grandit et elle préfère évoluer avec les gens qui sont les employés en fait du château. se sentant plus à l'aise, et on lui découvre déjà, dès l'âge de 5 ans, des pouvoirs psychiques. Alors évidemment, elle va surtout plus tard se faire connaître par cela, mais aussi on pourra en reparler, parce que par rapport à ça aussi, elle va se préciser. Mais elle avait dès le départ des pouvoirs psychiques, et elle commençait à devenir un peu la terreur dans le palais, parce que elle était capable de lire lorsqu'elle voyait une personne, elle était capable de savoir à quel âge il allait mourir, exactement la date. Donc comme elle était jeune, elle était maladroite et elle disait ce qu'elle voyait. Donc évidemment, tout le monde frôlait les murs quand il commençait à la rencontrer, parce que plus personne ne voulait se faire dire quand est-ce qu'il allait mourir, évidemment. Il y a énormément d'anecdotes qui sont racontées, qui ont été rapportées. On dit qu'elle avait pour ami le lutin du palais, que lorsque une fois elle fait une chute de cheval, eh bien en fait elle ne tombe pas véritablement à terre, elle tombe très tranquillement, comme si elle allait être déposée comme une feuille sur le gazon. C'est énorme, les anecdotes. Donc effectivement, elle a des pouvoirs déjà qui sont paranormaux. Et on disait d'elle qu'elle n'était pas très jolie. Et ça l'agaçait un peu, non pas qu'elle était coquette, mais ça l'agaçait un peu parce que tout le monde se moquait d'elle en disant qu'en grandissant, elle devait avoir 16 ou 17 ans, et on disait d'elle, bon ben alors, jamais tu réussiras à te marier. Et alors, comme elle était rebelle, qu'elle ne pouvait pas accepter ce genre de situation, elle dit, le premier qui franchit cette porte, je le marie. Et celui qui franchit la porte, a pratiquement 70 ans, le comte de Blavatsky. Et donc, il faut qu'elle passe à l'action. Évidemment, lui, il est émerveillé, hein, il est une petite jeune, qui s'intéresse à moi, etc. Mais l'histoire raconte que le mariage ne s'est pas consommé, se marie, hein, et on dit qu'elle fuit à cheval dans la nuit de noces, et qu'elle part. Alors, et c'est le comte de Blavatsky, parce qu'elle, elle s'appelle Elena Petrovna. C'est surprenant, n'est-ce pas, parce qu'elle ne reverra jamais son mari, mais elle continue de porter le nom de Blavatsky. C'est quand même extraordinaire. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que, vu qu'elle va voyager beaucoup, c'est lui qui va l'aider financièrement pour ses voyages. Donc, pour reprendre peut-être un terme de Madame Blavatsky, c'était une rencontre karmique. C'est-à-dire, c'était le destin, et certainement, il lui a facilité, parce qu'à l'époque, voyager était vraiment compliqué, surtout pour une femme. Et déjà, et bien sûr, elle avait des conceptions de la vie qui sont très marquées pour quelqu'un de son âge. Et surtout, ce qui est très particulier, c'est qu'elle est toujours en train de dire qu'elle voit en rêve des personnages, mais elle ne sait pas qui sont-ils. Alors, elle reviendra quand même à un moment donné au palais, son père comprenant qu'elle n'est pas comme les autres. Et ils vont aller à Londres, je pense que c'est pour ses 20 ans. Et donc, ils vont aller à Londres. Et on dit qu'à ce moment-là, c'est une rencontre assez particulière. Et elle va voir vraiment, en chair et en os, un des visages qu'elle voyait en rêve depuis si longtemps, depuis son enfance, et qui est son premier maître. On dit elle va parler de deux maîtres, mais elle va être très, comment je dirais, pudique pour parler de ses maîtres. Donc après, tout le monde va vouloir, on veut savoir c'est comment ils étaient. Alors, bien sûr, dans beaucoup de livres, ou même si vous allez sur Internet, vous avez des dessins des maîtres, mais qu'il faut prendre avec une pincée de sel, si je peux dire ainsi. Et donc, elle tente de s'approcher de lui, et il lui fait comprendre que c'est pas le moment, puisque c'est un hindou, Et il est avec un ensemble de personnes autour de lui. Et elle va le rencontrer quelques jours plus tard dans Hyde Park. Et c'est là où c'est le mystère, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est raconté. Mais ce que l'on sait, c'est qu'après, elle devait pénétrer au Tibet. Donc elle avait reçu une mission. Mais HPB est un peu... comme elle est rebelle à tout, hein. Et c'est pas tout de suite qu'elle va aller au Tibet, elle va voyager, elle va même venir ici en Amérique du Nord, et parce qu'elle cherche, elle est à la recherche de qu'est-ce qui va pouvoir, ou comment on va pouvoir trouver les points de concordance entre toutes les sagesses du monde. Alors ça, elle cherchait cela. Et bien sûr, elle cherchait aussi à faire des liens entre les sagesses, la sagesse antique et les sciences de l'époque et du futur. Alors, donc, elle voyage. Au total, elle fera 7 fois le tour du monde. C'est quand même pas mal pour le 19e siècle. Et surtout que le moyen de déplacement ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est très spécial. Donc elle ne manquera pas d'argent. On dit que parfois, si, quand elle en manquait, elle manquait d'argent, qu'elle organisait un concert de piano et se mettait à jouer. Les gens venaient, elle faisait de l'argent et elle repartait. On se dit, mais quand est-ce qu'elle a appris à jouer du piano? Enfin bon, il y a des zones mystérieuses en réalité. Et toujours sur son chemin, elle rencontrait tout un ensemble... De personnages, notamment elle avait rencontré Clara Schumann qui était un peu son mentor en musique. Donc elle va rencontrer tout le temps des personnes qui vont l'appuyer, qui vont l'aider. Elle va rencontrer aussi des personnes terribles, mais ça c'est plus tard. Mais au début, tout se passe à peu près convenablement, et on dit que pour rentrer au Tibet, ça va lui prendre 10 ans. Bon, son maître avait l'air d'être patient, vous voyez, parce qu'apparemment c'était la première mission qu'elle devait faire, c'est rentrer au Tibet, et ça lui a pris 10 ans. Ça veut dire qu'elle avait préféré faire autre chose avant. C'est la première femme qui va pénétrer au Tibet. Alors je sais que dans la plupart des littératures, on dit que c'est Alexandra David-Neill qui était la première femme à rentrer au Tibet, mais non. Alexandra David-Neill d'ailleurs va s'inscrire à la société théosophique, mais dans sa biographie ce ne sera pas mentionné. Donc oui, beaucoup de personnes qui vont croiser le chemin de la société théosophique, on va en parler aussi de cela, mais qui ne vont pas vouloir mentionner ce fait, parce qu'on a retrouvé tout simplement un diplôme à son nom, hein. C'est pour ça qu'on peut le dire. Ou comme Edison, on a retrouvé un diplôme, etc. Mais lui, il ne se cachait pas. Il avait dit qu'il avait rencontré la société théosophique. Alors, évidemment, son voyage au Tibet, il y a des zones de flou, parce que tout n'est pas mentionné, mais il est certain que c'est majeur. Et au Tibet, il y avait encore à l'époque... justement des monastères où on pouvait en fait accéder à certains textes. Et comment se fait-il qu'elle ait pu accéder à certains textes là où d'autres avaient voyagé? Je pense qu'il y avait eu un moine dont je ne me souviens plus le nom, qui était un moine italien aux alentours du 16e siècle et qui n'avait accédé à rien de cela. Pourquoi elle y avait accédé? Un autre mystère. Et donc c'est comme cela qu'elle va rapporter là-dedans des textes. Mais l'autre obstacle, quand même, qui est majeur, c'est la langue. Parce que ce n'était pas écrit ni en russe, ni en anglais, ni en français, et ni en sanskrit. Parce que même si le sanskrit paraît... difficile maintenant, c'est facile d'apprendre le sanskrit. mais dans une langue qui s'appelle le Sanzar ou le Sanzar, tout dépend comment on veut le prononcer, qui s'écrit S-E-N-Z-A-R, et qui est une langue initiatique. Normalement, pour apprendre le Sanzar, il faut s'initier. Et l'initiation, c'est pas, vous savez, comme dans Kijiji, ou je sais pas où, en 3 mois, apprenez le Sanzar. C'est pas tout à fait ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une langue initiatique, ça veut dire que ça implique une formation initiatique. Et les formations initiatiques dans la sagesse antique, c'est pas 6 mois, 1 an, ni même 10 ans. Et 20 ans, oh, 20 ans, ça commence à être intéressant, mais c'est pas suffisant. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est spécial, c'est que Madame Blavatsky présente dès le départ des connaissances, une façon d'être, une manière de faire qui va être reconnue et qui va faire qu'elle va pouvoir lire et accéder à ses connaissances. On reviendra tout à l'heure sur ce texte-là parce que c'est majeur en fait dans toute l'histoire de Madame Blavatsky. Et ensuite, après ce passage d'importance au Tibet, elle reverra de nouveau ses maîtres. Et donc, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est dit, mais apparemment, il y a deux aspects qui vont se lancer, deux voies qui vont se lancer. Première voie, c'est qu'elle va cofonder la Société théosophique. Et deuxièmement, c'est écrire. Cofonder, alors l'AST, comme on l'appelle, la Société théosophique, va être cofondée avec le colonel Olcott, dont la rencontre va se faire dans une maison au Vermont. Et cette maison, on peut encore la visiter, on voit encore les cadres. Et c'était normal, elle ne pouvait pas, elle, fonder seule, puisque sa finalité n'était pas de rester la directrice ou la présidente de la Société théosophique. L'idée, en fait, de cette structure-là, de la Société théosophique, c'était de pouvoir créer une structure humaine qui canalise la connaissance. Puisque, évidemment, lorsque l'on est avec un flot... Parce que c'est un flot. Parce qu'on dira, oh, c'est juste quelques livres. Oui, mais quand tu lis une phrase, déjà, tu es par terre. Parce que tu te dis, qu'est-ce que c'est ? Parce que déjà, il va falloir prendre du temps pour commencer à déchiffrer, à décoder. Mettre en pratique, n'en parlons pas. Ça va prendre des années et des années. Donc, bon. Alors, donc, il s'agissait de mettre en place une structure humaine, une organisation humaine, pour favoriser la canalisation de ses connaissances, de ses hautes connaissances, dont elle apportait, elle était la, je dirais, la source, la fontaine, en quelque sorte. Et Olcott pourrait canaliser l'aspect plus structural. La Société théosophique va connaître un essor énorme, dès le départ, ce qui est aussi très... très étrange. Et quand elle va arriver aussi à New York, elle va écrire des articles dans les journaux qui la sollicitent et qui en veulent. Alors c'est merveilleux parce que à peine elle ouvre le chemin qu'il y a un intérêt. Et il y a un énorme intérêt et l'intérêt est mondial. Il n'est pas simplement dans un pays ou un autre. Non, il est mondial. En plus de ça, ça canalise des gens très riches, mais vraiment très riches, qui vont donner des biens, qui vont donner des maisons, des immeubles, pour que la Société théosophique puisse se développer. Donc on va dire, c'est génial. Tout commence super bien. Elle reçoit comme consigne de se retirer progressivement du mouvement mais aussi parce qu'il se passe quelque chose au sein de la société théosophique, qui est que, évidemment, c'était elle la figure de proue de la société théosophique, et non le colonel Olcott, bien que lui faisait beaucoup de travail. Mais elle faisait grande figure parce que elle, avec ses pouvoirs paranormaux, ses pouvoirs psychiques plus exactement, alors évidemment, elle avait des grandes capacités. Elle pouvait faire apparaître des objets sans qu'on sache d'où ils venaient. Notamment, on dit qu'elle a fait apparaître une bague dont la pierre, quand elle a été analysée, n'était pas de cette planète, la planète Terre. Bon. Aussi, comme elle était en communication avec ses maîtres, et ses maîtres n'étaient pas toujours visibles comme nous, on peut se voir. Donc, il y avait un système de communication qui était un système de lettres. C'est pour ça qu'aussi, je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi des livres qui rassemblent lettres des maîtres de sagesse. Et c'est très spécial parce que quand on les lit, parfois on comprend ou on croit comprendre, puis à d'autres moments on ne comprend rien. Ça veut dire que c'est important d'avoir une formation pour essayer de découvrir un peu. Donc il y avait des lettres qui apparaissaient. Alors elle était comme si on était là tous ensemble. Et elle posait une question à un de ses maîtres et une lettre arrivait. On va en reparler de tout ça parce que tout ça va être très controversé. On va dire que c'était une charlatan. On va dire bon, beaucoup de choses. On va dire c'est elle qui écrivait les lettres. Bon bref, on a dit tellement de choses. Et donc, ça suscitait un engouement terrible, vous pouvez vous imaginer. C'est-à-dire que si la personne, elle est capable de faire apparaître, si la personne est capable de se mettre en contact avec certains esprits et de gens qui sont déjà décédés, pour l'époque, c'est révolutionnaire. C'est absolument révolutionnaire. Parce que nous sommes dans une situation à ce moment-là où le matérialisme semble être à son comble. Ça nous fait sourire hein, quand on voit ça, parce que quand on voit notre siècle, on se dit mais pour l'époque c'était à son comble. N'oublions pas que c'est le siècle aussi du développement industriel, donc se développer matériellement est très important. Ça nous renvoie aussi à d'autres époques de l'histoire où on est plus intéressé pour avoir que pour être. Et elle va dire d'ailleurs que le développement matériel ne doit pas pour autant susciter l'appauvrissement spirituel. Et oui, parce que c'est pas parce que tu vas avoir plus que tu dois oublier qui tu es. Alors, on va y revenir aussi à ça. Donc, étant donné que la plupart des gens venaient surtout pour Madame Blavatsky, alors que l'objectif de la société théosophique était d'établir un noyau de fraternité, de créer une structure de développement intérieur, une structure de développement d'études comparatives, il y avait trop d'attachement au phénomène psychique. Vous voyez ? Et donc par conséquent, elle va être plus dans l'ombre et elle va par contre réaliser l'œuvre majeure de sa vie qui est d'écrire. C'est-à-dire laisser un legs pour les générations à venir et c'est essentiel parce que si elle n'avait pas fait ça aujourd'hui on ne serait pas là ensemble et même Nouvelle Acropole ne pourrait pas exister, donc c'est quand même majeur. Et elle va tenter d'ouvrir une école plus interne puisqu'elle voit qu'on est plus intéressé par les phénomènes dans la société théosophique. Pour elle c'est quelque chose qui est totalement superficiel. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais pourquoi elle le faisait alors? Pourquoi elle... Alors, Pourquoi elle le faisait? C'est parce que, pour les raisons que j'ai nommées tout à l'heure, comme nous sommes dans un siècle qui ne croit que ce qu'il voit, je me demande si on a beaucoup changé depuis, mais enfin bon, bref. Comme c'est un siècle où on croit les choses que l'on peut toucher et qui sont visibles, pour elle, c'était un moyen de faire une percée et de faire exploser, en fait, une mentalité, un état d'esprit trop cartésien, trop rationnel et pas assez de réflexion. Donc, c'était son côté rebelle parce que, évidemment, elle n'avait pas pour mission de faire cela. C'était pas du tout le but. Mais pour elle, c'était le moyen qu'elle avait choisi pour pour surprendre et faire que les êtres humains du moment puissent se poser la question, mais donc il n'y a pas que la matière, il y a autre chose. Alors c'était ça qu'elle voulait, mais on le sait parce que vers la fin de sa vie elle va cependant plus ou moins critiquer cela, parce que aussi curieusement vers la fin du 19e siècle il va y avoir une explosion du médiumnisme. Et elle va critiquer ça. On va dire, mais c'est pas possible qu'elle le critique puisqu'elle-même le faisait. Mais elle le faisait pas pour la même finalité. Parce que pour elle, ce n'était pas une finalité, mais juste un outil. Un outil pour prouver que les apparences, fais bien attention aux apparences, elles sont juste des apparences. Et il y a autre chose au-delà de la matière. Mais en même temps, en prévenant que, de toute façon, dans le médiumnisme ou autre phénomène psychique, il y a une utilisation de sa propre énergie et que ceci peut affaiblir si nous n'avons pas réussi à maîtriser cela. Et elle va dire que ses maîtres vont lui apprendre à contrôler justement sa relation au phénomène psychique. Et ça, c'est très important parce que les phénomènes psychiques qui nous attirent, qui sont encore des phénomènes matériels, parce qu'un phénomène psychique est encore un phénomène matériel, mais bon, une autre forme de matière ou une autre forme d'énergie. Si ça utilise trop notre propre énergie émotionnelle, nous pouvons tomber malades et nous pouvons capter toutes sortes de choses jusqu'à tomber dans la folie. Donc elle décrit très bien cela et c'est pour ça qu'elle essaye d'expliquer que la voix n'est ni le médiumnisme, ni les phénomènes psychiques, ni les phénomènes paranormaux, parce que ça c'est rien, ce n'est pas spirituel en soi. Ça c'est juste pour prouver qu'au-delà du corps, il y a l'énergie, la dynamique émotionnelle ou astrale, comme elle va l'expliquer, la dynamique mentale et d'autres plans, puisque c'est elle qui va nous ramener toute l'explication des 7 plans de l'être humain. Et donc, par conséquent, ça veut dire que le corps n'est que le support de beaucoup d'autres éléments. Alors, quand on voit le corps, c'est juste un reflet, c'est juste un miroir. Et que, bon, ben c'est, oui, il faut s'occuper du corps, mais c'est bien aussi de s'occuper des 6 autres plans. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et c'est ça qu'elle va nous ouvrir comme perspective. C'est-à-dire que pas simplement de rester là où nous sommes, mais de pouvoir se rendre compte que nous devons apprendre à travailler d'une manière différente. Je vais y revenir dans ma deuxième partie. Je vais finir avec l'histoire de sa vie et après on va aborder plus les textes, les enseignements. Alors, elle va fonder un groupe interne, donc à 2 reprises, parce que l'école ésotérique ou l'école interne, le premier va échouer, le deuxième, bon, apparemment va réussir, mais ça va être assez difficile. Et on dit que seulement 12 personnes vont rentrer, alors qu'il y a des milliers et des milliers de membres à la société théosophique à l'époque. Et ça, là, ça va causer un énorme problème. Parce que pour rentrer dans cette école interne, c'était pas parce que tu payais une plus grosse cotisation ou c'était pas parce que tu avais offert une maison à la société théosophique, mais parce qu'il fallait que tu passes par des épreuves. Et les épreuves étaient essentiellement morales. Et ça, c'est très dur. Je pense que c'est le plus dur. Parce que être moral, ce n'est plus du tout une question de qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que je n'ai pas. Mais c'est une question d'être. Donc il y avait une série d'épreuves qui étaient données. Et les candidats donc devaient passer par une série d'étapes. Et évidemment, ceux qui avaient donné ou qui avaient payé, qui avaient donné de l'argent ou donné des biens, ne comprenaient pas pourquoi eux ne pourraient pas rentrer directement. Et comme quoi, c'est très important, parce que ça nous fait sourire, mais je pense qu'encore aujourd'hui, on a encore un peu cet esprit-là, parce que très souvent, on veut des passe-droits parce qu'on a fait telle chose, ou parce qu'on a été gentil, ou parce qu'on a une bonne face. Mais non, dans l'ésotérisme, dans l'initiation, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que l'initiation est certainement l'aspect le plus démocratique, entre guillemets, parce que peu importe d'où tu viens, peu importe quelle est ta fortune ou pas de fortune, c'est présente-nous tes qualités intérieures. Mais pour cela, pour les valider, il faut les mettre à l'épreuve, en fait. Si elles ne sont pas mises à l'épreuve, comment on va savoir, hein? Mais même pour nous, même si nous ne sommes pas des initiés, comment nous allons savoir les qualités morales que nous avons? Comment nous allons savoir si nous avons du courage, par exemple, si nous ne sommes pas mis à l'épreuve? Par exemple, si nous ne faisons pas face à une peur, comment savoir si nous avons du courage? Donc, la vie aussi nous apporte des épreuves. Sauf que là, la grande différence, parce que les épreuves de la vie, parfois, ça peut nous prendre 10 à 20 ans pour la comprendre. Bon, là, ici, c'est un petit peu plus condensé. Donc, il y a des épreuves préliminaires. Il y a quelques étapes qui ont été expliquées dans un des livres de Mme Blavatsky. Mais notamment, c'est en relation avec les quatre éléments qui sont terre, eau, air, feu. C'est-à-dire qu'ils sont en relation avec les éléments de la constitution, de la personnalité de l'être humain. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en soi, mais on se rend compte que toutes ces épreuves-là, c'est quelle est la volonté, quelle est la discipline, quel est le courage que je peux avoir face et avec les éléments que je possède. Le corps, qui est normalement l'élément, entre guillemets, le plus simple, c'est lui qui est le plus facile à conduire. Quand je dis le plus facile, tout est relatif, évidemment. Mais c'est le plus facile à conduire. Pourquoi? Parce que c'est visible, c'est physique, et parce qu'on en voit les conséquences. C'est parce que si je décide, vous savez, il y a des choses très simples. Si je décide de me lever, mettons, à telle heure, alors on va dire, bon, on va se lever. Mais il y a des corps qui ne se lèvent pas. T'as beau leur dire, oh corps, lève-toi, je ne sais pas à quelle heure, 5h30, 6h, dites-moi. Et lui, il peut dire, non. Vous n'avez pas constaté ça?
Mais oui.
Donc, ou le corps répond, ou il ne répond pas. Et c'est donc ta volonté, notre volonté, qui doit faire en sorte que le corps réponde. Ça, c'est un exemple ultra simple, n'est-ce pas? Mais il y en a tellement d'autres. La relation à l'alimentation, la gourmandise, etc. C'est-à-dire, comment j'agis face à des choses simples. Mais tout ça en situation d'épreuve. Et attention, c'est pas non plus, ah bon alors, ah, je vois, il y a comme un côté restriction, modération, etc. Bon, le jour de l'épreuve, je vais me modérer. Puis après, je continue comme avant. Eh bien non. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une continuité. C'est-à-dire que je peux passer à la deuxième étape parce que je démontre que je suis en train de maîtriser le premier plan. Et tout ça, c'est la, comment je pourrais dire, c'est la validation, c'est l'examen, si vous voulez, qui est l'examen pour valider l'éthique et la morale de la personne. L'éthique, ça veut dire, on peut tous adhérer à des valeurs, on peut tous adhérer à des idées géniales, comme la fraternité, par exemple, la paix dans le monde, l'amour, etc. Oui, oui, oui. Mais la chose la plus importante et la plus difficile, c'est la morale. C'est-à-dire la mise en application des valeurs transcendantes, même si tu rencontres des obstacles épouvantables dans ta vie. Parce qu'évidemment, c'est sûr que lorsque nous sommes avec des personnes qui pensent un peu comme nous ou qui ont la même vision, c'est facile. Enfin, c'est plus facile. Mais lorsque nous sommes dans un contexte qui n'en a rien à faire de tout ça, waouh, ça c'est l'autre épreuve. Parce que tout d'un coup, dire, mais comme les autres font ça, ben, je vais le faire moi aussi. Donc pourquoi est-ce que moi j'affirmerais une identité profonde intérieure puisque tous ceux qui sont autour de moi ne le font pas? Moi je dis, c'est une épreuve majeure. Mais là, ce dont on parle, c'est l'école interne. Ça veut dire des personnes qui transpercent, qui doivent transpercer toutes les étapes, parce que eux auront la possibilité de rentrer en contact avec ces maîtres. Pour rentrer en contact avec ces maîtres, comme elle expliquait, il fallait que le réceptacle soit propre. Le réceptacle, c'est l'humain. Propre, évidemment, on va utiliser les mots pureté, etc., mais ça n'existe pas en soi, chez l'être humain, la pureté en soi. C'est le côté trop archétypal. Mais par contre, la propreté, c'était la propreté intérieure, c'est-à-dire la morale. C'est-à-dire que la personne respecte et applique les principes. Donc, elle n'est pas simplement en train de penser à quelque chose et d'agir à l'opposé. Mais tout correspond, tout est en cohérence. Très, très important. Et ça aussi, ça prend du temps d'arriver à ça. Faudrait pas que l'on croie, oh, mais c'est pas grand-chose, parce que bon, moi aussi, j'ai des valeurs et je les mets en application. Et parfois, on pense qu'on sait faire, et en réalité, on le fait selon notre opinion. Et là, évidemment, l'école interne ou l'école ésotérique indiquait donc que nous étions dans une autre relation, la relation maître-disciple. Une relation qui est mystérieuse pour l'Occident, totalement normale pour l'Orient. Mais en Occident, maître, disciple, oh là 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 là, ça commence à mal aller pour Madame Blavatsky, là. Parce que là, elle amène quelque chose dans un Occident qui est vaniteux et arrogant. Et donc, tout ce qui est celui qui va nous donner des épreuves, etc., mais qui es-tu toi pour donner des épreuves? En gros, on va rencontrer tout ça, et elle va rencontrer tout ça, et bien d'autres choses qu'elle va rencontrer et qui vont lui être très difficiles. Donc elle aussi, comme elle dit si bien, elle aura eu son lot d'épreuves. Donc, ils sont 12 à pouvoir rentrer dans l'école ésotérique. Quand elle va décéder, cette école va quasiment se démanteler. Il restera très, très peu de personnes. Certains vont construire autre chose. Et l'école interne, officiellement, va se fermer en 1950. Par faute de disciples, en fait. Et donc, il faudra quelque chose d'autre qui se renouvelle pour faire de nouveau un essai. Bon. Avant qu'elle désincarne, comme j'ai dit tout à l'heure, elle faisait un peu comme ce soir. Elle le recevait, il y avait pareil, nous, on attend à partir de 5 heures du matin pour que le magasin s'ouvre à 9 heures ou 8 heures pour aller acheter le dernier iPhone ou je sais pas quoi. Non, là, à cette époque-là, comme il n'y avait pas d'iPhone, on faisait la queue dans la rue pour rentrer chez Madame Blavatsky. C'est différent, disons. C'est un style différent. Et apparemment, elle adorait ça, puisque c'était des questions sur le karma, le dharma, la réincarnation, etc. Et elle adorait expliquer tout ce qu'elle savait. Mais ceci dit, dans les dernières années, elle va être très attaquée. C'est fou les attaques qu'elle va avoir. Et tout d'abord, on va dire que le livre La Voix du Silence n'existe pas. Le livre du QT, on va en parler tout à l'heure, n'existe pas. Enfin, bref, de tous les textes dont elle parle, ça n'existe pas. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Hein, personne n'a vu. Donc, si on ne voit pas, ça n'existe pas. Ça, c'est un état d'esprit. Que les lettres, c'était les lettres qui arrivent des maîtres de sagesse, c'est elle qui se les écrit. Elle va aider beaucoup de monde et ces personnes qu'elle aura aidées vont se retourner contre elle. C'est très très intéressant comme dynamique. Elle disait elle-même qu'elle expliquait le phénomène que elle a été comme un catalyseur en fait. Parce que peut-être qu'elle avait la capacité de le prendre, je ne sais pas. Hein. Même si on disait qu'elle se mettait des fois en colère, mais on peut comprendre avec tout ce qui a été dit contre elle, c'était affreux. Bon, que c'était une charlatan, qu'elle buvait, enfin bon, bref. Tout ce qu'on a pu dire, on l'a dit. Avec les mots et le vocabulaire de l'époque. Aujourd'hui, on aurait dit terroriste, on aurait dit secte, gourou de secte, etc. Parce qu'il faut utiliser le vocabulaire qui convient dans le moment historique. On a même dit qu'elle a été précurseur du nazisme. Enfin, évidemment, on va le dire plus tard. C'était fou, tout ce qui a pu être fait. C'est un siècle plus tard qu'elle va être réhabilitée. Donc, il faut attendre 100 ans. Elle aura vécu les derniers jours en train d'écrire la doctrine secrète, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Pas trop, parce qu'il y a Denis qui, lui, va parler dans les autres conférences. Mais on dit qu'elle est pas mal seule au moment où elle va désincarner. Heureusement, elle était entourée notamment de la comtesse de Watchmaster, qui était comme la dame de compagnie, qui veillait à ce que tout se passe bien pour elle. Et elle a désincarné un 8 mai 1891. 8 mai, dans la date orientale, c'est la fête du lotus blanc. Et c'est aussi la date de désincarnation du Bouddha. Là, il y a beaucoup d'éléments intéressants en relation avec le 8 mai. Et on dit que quelques heures avant, les médecins s'étaient déplacés parce qu'elle elle était mal en point. Et qu'ils disaient, elle peut encore vivre longtemps. Et elle va désincarner à sa table de travail avec le stylo. Tellement étrange que la comtesse de Watchmaster va pas s'en rendre compte tout de suite. Elle pensait qu'elle était en train d'écrire. Et donc, est-ce qu'elle a fini son œuvre? Probablement pas. Mais en tout cas, nous, on a récupéré beaucoup d'éléments, beaucoup de choses dont on va pouvoir parler dans la deuxième partie, notamment avec le QT, hein, on va pouvoir parler de ça tout à l'heure. Bref, faut pas que je le fasse avec mon ordi. Voilà. Donc, on va faire une petite pause et puis on va parler dans la deuxième partie un peu de sa mission, l'essentiel de sa mission. Probablement, je pense qu'il y a plein de choses qui vont me manquer, mais on laissera la place aux questions Et puis ce sont vos questions qui pourront m'aiguiller dans tout ce qui est à dire. Ben, il y a tellement à dire, je pense qu'on en aurait pour jusqu'à demain. Ben, c'est un personnage incroyable. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans les textes et on racontera des anecdotes aussi. On peut rencontrer des obstacles, c'est-à-dire que si je vis une épreuve très difficile dans ma vie, ce à quoi je croyais, je n'y crois plus. Alors que la certitude, ça n'a rien à voir. C'est une expérience intérieure, forte. C'est une évidence. Alors, pour Madame Blavatsky, c'est ça. Et je dirais pour moi aussi. Parce que sinon, je ne serais pas à l'Acropole dans cette dynamique où, pour moi, ce serait un doute. Deuxième certitude pour Madame Blavatsky, c'est que les maîtres de sagesse existent. Mais déjà en expliquant que dans son enfance, elle en avait vu les visages dans ses rêves, évidemment que c'est une expérience pour elle. Et elle va essayer d'expliquer à l'Occident, parce que pour l'Orient, ce n'est pas un problème. Mais pour l'Occident, c'est un problème, d'expliquer l'existence des maîtres. Le mot « gourou » est péjoratif ici, en Occident, mais pas en Orient. Et après, comme on le sait, au XXe siècle, il va y avoir toutes sortes de mélanges et que les gourous sont ceux qui vont fonder les sectes, etc. Bon, bref. Donc évidemment, dans cette confusion-là, ce ne sera pas simple, mais même à son époque, ce ne sera pas simple d'expliquer l'existence des maîtres de sagesse, parce que ça implique nécessairement qu'il y a des esprits plus avancés. Donc ça va impliquer beaucoup de choses dans les explications, en fait. Et évidemment, troisième certitude, c'est que Dieu existe. Mais pas sous la forme d'un Dieu personnel. Pas sous la forme de quelqu'un qui va me sauver, de quelqu'un à qui je vais demander, je sais pas, de rencontrer l'amour de ma vie, ou le numéro du loto, ou quoi que ce soit, non. Dieu personnel, non. Dieu est une énigme. Et que la quête, en fait, de la quête de la sagesse, c'est la quête de la vérité, c'est la quête de Dieu, en fait, la quête du divin. Et la sagesse antique, à laquelle elle va pouvoir accéder, va apporter une vision complètement incroyable. Mais, évidemment, elle va l'apporter, tout ceci à partir des textes qui, à l'époque, ne sont pas connus. Alors, vous voyez qu'elle s'est quand même mise dans pas mal d'épreuves. Et ce texte s'appelle le QT. On dit que c'est le plus vieux livre de sagesse du monde. La datation, on n'osera pas le dire. Ce soir, on va se modérer. Mais aussi, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce possible qu'un texte comme cela a pu passer les milliers d'années, si ce n'est pas les millions d'années ? Parce qu'il y a eu quand même des révolutions, des tremblements de terre, il y a eu des déluges, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Donc ces textes auraient pu être détruits. Le mystère de ce texte, c'est que c'est fait dans ce qu'on appelle des feuilles de palmier, mais traitées de telle manière, avec un produit qu'on ne connaît pas, traitées de telle manière à ce que cela résiste à l'eau, à l'air et au feu. Mais à l'époque, quand elle disait ça, tout le monde disait « Pauvre madame blablabla ». C'est-à-dire qu'elle invente quelque chose. Et donc, il y a 7 volumes ésotériques, on y reviendra tout à l'heure, et de ces 7 volumes ésotériques, le premier volume s'appelle « Les stances de Zian ». Les fameuses stances qui parlent de la cosmogénèse et de l'anthropogénèse. Cosmogénèse, c'est-à-dire la naissance et l'évolution du cosmos. Anthropogénèse, qui parle de la naissance et de l'évolution de l'être humain. et qui, évidemment, n'est pas le développement de la théorie de Darwin, ou de l'hypothèse de Darwin. Ça ne veut pas dire que tout est réfuté de Darwin, absolument pas. Mais y a des choses qui ne correspondent pas, et de toute façon, aujourd'hui, la science est en train de plus en plus corroborer ce qui est dit en anthropogénèse. Donc ce livre est évidemment été écrit en Senzar et qu'elle va pouvoir retraduire dans la fameuse doctrine secrète, un peu dans Isis dévoilée aussi, mais dans la fameuse doctrine secrète, le volume 3 par exemple, nous avons l'estance, et l'estance parle entre autres de l'anthropogénèse. Alors, ce n'est pas une anthropogénèse matérielle, c'est une anthropogénèse qui parle du passé, bien sûr, de l'humanité, mais pas du corps de l'être humain, parce que nous, quand on parle d'anthropos ou anthropologie, on s'intéresse aux os, aux crânes, qu'est-ce que l'être humain mangeait, etc., comme si c'était la seule chose qui était intéressante. Mais c'est plutôt l'aventure. L'anthropogénèse, c'est l'aventure de l'esprit humain. Et qui est assez phénoménal. Donc ça, nous, on aborde cet aspect-là dans le deuxième cycle. L'autre aspect que j'aimerais aborder, c'est que tout ce qu'elle va nous apporter au travers de la doctrine secrète ou de Isis dévoilée, va nécessiter absolument un changement de manière de penser. Nous pensons d'une manière très mécanique et très intellectuelle. Et ça veut dire qu'on utilise la partie inférieure de notre cerveau. Tout ce qu'elle écrit, elle l'écrit pour susciter le fait d'aller chercher en nous d'autres facteurs, d'autres éléments de notre intelligence, et de cesser de fonctionner seulement avec le basique. Le basique, c'est bon pour aller travailler, payer les factures, payer les impôts, le loyer, etc. Mais pour rentrer en contact avec les mystères de la vie, les mystères du sens à la vie, ça prend autre chose. Et c'est génial ce qu'elle va faire, parce que celui qui ne veut pas faire d'efforts, il va jeter le livre. Mais celui qui dit « mais ça se peut pas là, ça se peut pas, il faut que j'arrive à comprendre », il va saisir qu'il y a des efforts à faire. Parce que l'évolution, comme elle va si bien nous l'expliquer, l'évolution de l'humanité dépend essentiellement de qu'est-ce que l'on fait avec notre conscience. Et plus spécifiquement, la conscience de notre conscience. Parce que les animaux aussi sont conscients. Ils évoluent aussi. Mais ils évoluent en apprenant, et surtout quand ils se laissent domestiquer, c'est-à-dire ils apprennent à nos côtés. Mais l'être humain a une autre particularité que l'animal n'a pas, qui est d'avoir conscience de sa conscience. C'est-à-dire de s'auto-observer, de pouvoir saisir si ce qu'il fait est moral ou non. De pouvoir aussi saisir, est-ce que la finalité de mes gestes, c'est égoïste ou non ? C'est évidemment un élément fondamental chez Madame Blavatsky, qui va se répéter dans tous ses écrits, aucun pouvoir n'est accessible à celui qui a des fins égoïstes. Je reviens tout à l'heure, quand j'expliquais les pouvoirs psychiques qu'avait Madame Blavatsky et que beaucoup voulaient acquérir, et c'est pour cela que beaucoup de choses se sont fermées à l'intérieur de la société théosophique, finalement, puisque la société théosophique existe à l'état très réduit à l'heure actuelle, mais c'est parce que les pouvoirs, le fait d'avoir un pouvoir, c'est pour avoir un pouvoir sur l'autre. Mais ça, c'est le pouvoir matérialiste. C'est égoïste. Non, le pouvoir, c'est le pouvoir sur soi. C'est le pouvoir de s'améliorer, le pouvoir d'évoluer. Il n'y a aucun pouvoir sur les autres. Alors quand on recherche un pouvoir sur les autres ou sur autrui, cette voie ne peut pas s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y a plein de prérequis, en fait, pas seulement dans la voie initiatique, mais dans la voie ésotérique, philosophie ésotérique, parce que il y a un de ses ouvrages qui s'appelle « Occultisme pratique ». Le mot fait fureur, mais aujourd'hui, ça s'appellerait « Philosophie pratique ». Quand on lit cet ouvrage-là, c'est vraiment génial. Mais à l'époque, il fallait impacter dans, ça s'appelait « Occultisme en pratique ». Mais on a beaucoup d'opinions et de déformations des mots. Les mots ont été déviés, vidés de leur contenu, et on leur a donné un contenu inverse à ce qu'ils étaient à l'origine. Alors vous imaginez, dans tout ce contexte-là, elle arrive, elle doit apporter, elle a une mission qu'elle a reçue de ses maîtres, apporter à l'Occident ce qui s'est réfugié en Orient. Ça ne veut pas dire que l'Orient avait préservé sa spiritualité. L'Orient était en perte de vitesse totale. Parce qu'en Orient s'est réfugié un ensemble de textes de l'Occident spirituel d'avant Jésus-Christ. Donc c'est comme si elle recueillait, elle le dit elle-même d'ailleurs, j'ai recueilli ces textes comme le fait de recueillir plusieurs fleurs et d'en faire un bouquet. Donc elle dit, mon œuvre, c'est le bouquet de fleurs de tout ce qu'elle a pu recompiler, si on peut appeler ça recompiler, parce qu'elle a fait plus que ça, évidemment, parce qu'elle a commenté. S'il n'y avait pas eu ces commentaires, on ne comprendrait rien, en fait. Donc elle a commenté ce qu'elle a rencontré, et elle a réuni, donc, à la fois, et elle a pu prouver que l'Occident a été spirituel, mais a perdu. Troisième, quatrième siècle, troisième siècle avant Jésus-Christ, deuxième siècle avant Jésus-Christ, l'Occident s'était déraciné. Et l'Orient, par contre, non. Mais l'Orient commençait son propre déracinement. Et le pont Orient-Occident était fondamental. Et un autre élément qu'elle va expliquer, qui est en relation avec les cycles de l'histoire, d'immenses cycles de l'histoire, mais dans ces immenses cycles de l'histoire, il y a des mini-cycles qui sont des cycles de un siècle. Et elle expliquait que dans chaque siècle, les 25 dernières années sont fondamentales et sont comme la saison, entre guillemets, pour planter ou semer des graines, pour ouvrir les portes du siècle qui suit. Ce qu'elle a fait, puisque la Société théosophique a été fondée en 1875. Elle-même, elle a continué ses écrits après la Société théosophique, et c'est vrai qu'elle a ouvert une porte phénoménale, puisque aussi bien des artistes que des scientifiques, des écrivains, ont ouvert des portes à quelque chose d'autre. Et ça a ouvert le XXe siècle de cette manière-là. Elle a aussi précisé que le XXe siècle serait plus, aurait plus d'ouverture, entre guillemets, parce qu'on allait faire des nouvelles découvertes archéologiques et qui prouveraient un certain nombre d'éléments de textes qu'elle avait retrouvés. Et c'est vrai, on a découvert Machu Picchu. On a découvert la tombe de Toutankhamon, et ça a été pour nous la preuve que les textes qu'on avait retrouvés n'étaient pas des textes fantaisistes, mais des véritables textes qui étaient accomplis, pratiqués, et c'était un fait. Alors là, évidemment, c'est sûr que et l'égyptologie va faire un bond en avant, par exemple, grâce à Toutankhamon. Après, on va chercher le symbolisme, on va approfondir tout cela, et on va parler de l'aspect ésotérique et exotérique. C'est elle qui apporte cela. Alors, ésotérique, pour nous, quelqu'un qui n'est pas trop au fait de tout ça va penser, oh, des choses cachées. Donc, des choses louches. Mais effectivement, E-I-S-O, veut dire au-dedans, à l'intérieur. Alors, ouais, nos organes sont cachés. Ils sont au-dedans. Nos organes sont ésotériques. Du point de vue de la peau est exotérique, les organes sont ésotériques. La pensée ne se voit pas. La pensée est ésotérique. Ce qui est charnel est exotérique. Donc on pourrait très bien penser, on pourrait très bien se dire, ah bon, donc mon corps cache quelque chose. Ou révèle. S'il y a communion. S'il n'y a pas communion, il y a rupture entre ce que je ressens profondément et ce que je présente aux autres. Est-ce possible? Ben oui, bien sûr. Donc l'ésotérique et l'exotérique, nous le côtoyons tout le temps. Tout ce que je vois au premier degré est exotérique. Et quand j'interprète quelque chose au premier degré, c'est exotérique. Les fables, les légendes, qui sont très utiles, hein, parce que ce sont des véhicules qui sont transformés, bien sûr, dans le temps. Mais exo, extérieur, à l'extérieur, pour usage extérieur. Tout le folklore que nous avons, c'est l'aspect exotérique de connaissances ésotériques. Même les mythes, dans l'interprétation des mythes. Je peux faire une interprétation exotérique. Bon, alors, je ne sais pas, on va prendre le mythe Zeus. Zeus, il y a plein de femmes, Zeus. Bon, ben lui, hein, c'est le séducteur. Alors, premier niveau, exotérique. Vous voyez, les gars, tous les mêmes. Vous voyez, exotérique. Mais ésotérique, Zeus représente un pouvoir, le pouvoir transcendant. Un pouvoir transcendant qui peut s'unir à d'autres forces, et en s'unissant à d'autres forces, génère, devient prolifique. Chez nous, une idée qui rencontre une autre idée, normalement, peut générer des idées, de nouvelles idées. Des individus qui se rencontrent entre eux, qui sont capables d'avoir du dialogue, ça peut générer quelque chose de très positif, de très créatif. Pourquoi toujours la confrontation? Pourquoi toujours la guerre? Ou pourquoi toujours la compétition? Mais ça, c'est un état d'esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a un état d'esprit à regagner chez l'être humain. Et donc, Madame Blavatsky a voulu créer, secouer, remuer de l'intérieur, c'est-à-dire... Si on reste seulement dans l'apparence et dans l'extériorité, il y aura toujours conflit, il y aura toujours confrontation. Mais par contre, s'il y a une quête plus intérieure, c'est-à-dire une aventure intérieure, que on va appeler spirituelle, ou la quête philosophique, ou la quête transcendante, ça n'a pas trop d'importance les noms que l'on va donner. Mais c'est l'idée de parler qu'il y a un extérieur et un intérieur, qu'il y a l'exotérique et l'ésotérique. Bon, alors la prochaine rencontre philosophique, ça va être ça. On va parler de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et quand on parle de l'homme, c'est l'homme d'une manière générique, hein, puisque dans le vocabulaire aussi, homme avec un H majuscule, ça parle de l'homme et de la femme. Bien. Donc ça veut dire intérieur, extérieur. Donc elle nous provoque, en fait. Elle nous provoque intérieurement parce qu'elle bouscule toutes les opinions dans lesquelles on a une tendance à s'installer et dans des habitudes très rigides, en réalité. Et c'est pour ça que c'est une aventure, et la vraie aventure. Je sais qu'il peut exister l'aventure physique, etc., sportive, c'est chouette, mais la véritable aventure, c'est l'aventure de l'esprit. Donc c'est elle qui nous amène ce vocabulaire-là. Tous les groupes... dits spirituels ou de nouvel âge qui vont naître dans le XXe siècle vont s'appuyer sur Madame Blavatsky. Oh, pardon, merci. Je suis encore avec mon Voilà. Donc, les termes qui vont faire fureur à son époque, mais qui le font encore aujourd'hui, c'est notamment karma dharma. Mais avec, ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces termes-là vont être souvent interprétés à la lumière de notre religion catholique, par exemple. Si par exemple, aujourd'hui, on utilise « Ah, c'est karma, tu as, telle chose t'est arrivée, pas bonne chose, karma. » Comme si karma était une punition. Non. Comme elle explique si bien, karma, c'est loi d'action. Mais si on veut aller un peu plus loin, elle dit, bon, ok, loi d'action, ça va... Vous ne comprenez pas, parce qu'elle avait bien saisi qu'on était un peu limité dans notre capacité, là, entre les deux oreilles. Donc, action, réaction. Mais surtout, karma, c'est la loi éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de manière éthique ? Et son reflet va apparaître. Alors, comme elle a une grande foi, elle avait une grande foi en l'humanité, elle parle de cette manière-là. Elle ne parle pas d'une manière directe, oui, mais si on fait quelque chose qui n'est pas joli, etc., donc on aura une répercussion. Non, elle dit, c'est en relation avec ton éthique. Si tu agis en conformité avec ce qui est juste, ce que toi tu comprends qui est juste, parce qu'évidemment, la notion de la justice n'est pas évidente pour nous. Mais déjà, si toi, à ton niveau, tu agis d'une manière juste, tu sens que c'est juste ce que tu fais, tu agis en conformité avec ton éthique. Et de toute façon, il y aura les résultats. Parce que qui plante une graine, quelque chose va pousser. Un acte, une action, une pensée, un sentiment, c'est une graine que l'on plante. Ne pensons pas que parce que ça ne se voit pas, une pensée ou un sentiment, bon, il ne va rien se passer. Non, non. Il y a 7 plans dans l'univers. En réalité, il y a 10 plans. 7 plans compréhensibles pour nous, pour notre mental limité. Donc, 7 plans, vous voyez que le physique, c'est juste un. Et les 6 autres plans, qu'est-ce qui se passe ? Les 6 autres plans sont des plans vibratoires. Et une pensée, c'est une vibration. Une émotion, un sentiment, c'est une vibration. Qu'est-ce qui se passe sur ce niveau-là, sur ce plan-là ? Qu'est-ce que j'émets comme vibration ? Et donc, qu'est-ce que j'attire avec mes vibrations ? Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train d'expliquer avec le quantique. Le fait d'émettre. Donc, va faire que tu vas canaliser, capter. On peut être en rupture avec soi-même. Quand on est en rupture avec soi-même, alors on va se mettre en rupture avec l'environnement. C'est un phénomène naturel. Il n'y a rien là qui est spécial. Mais c'est spécial ou c'est anormal pour une mentalité qui ne croit que ce qu'elle voit. Et c'est ça qu'elle vient bousculer. C'est-à-dire qu'il est temps, en fait, pour nous d'essayer de comprendre ce qu'elle est en train de nous enseigner, puisque de toute façon, ça y est, la science déjà est en train de le prouver. Réincarnation, évidemment, s'il y a la compréhension ou l'acceptation dès le départ pour elle, la certitude de l'âme immortelle, la réincarnation est d'une évidence totale. Parce que c'est pas une croyance. Pour nous, en Occident, quand on est face à ça, on pense que, ah, est-ce que je dois y croire ? Non, on n'est pas à ce niveau-là. Pas du tout. Blavatsky explique tout le principe, en fait, que le fait dans une vie, le corps est une enveloppe, c'est un outil dont on a besoin pour acquérir un certain nombre d'expériences. Une fois que l'outil il est cassé, on va en chercher un autre outil. C'est comme avec la voiture, quand la voiture elle est cassée, elle est cassée, on va acheter une neuve ou une d'occasion, peu importe, puis on continue notre chemin. c'est pas quelque chose qui est aussi bizarre. Mais enfin, ça commence à être regardé. Aujourd'hui, il y a pas mal de scientifiques aussi qui s'intéressent à cette théorie de la réincarnation, mais qui pour elle n'était pas une théorie. Bon, bref. Les chakras, l'astral, bon, ben c'est elle qui apporte ça. L'astral, c'est en relation avec le monde émotionnel. Bon, on va parler de dédoublement astral, etc. Mais on fait tous des dédoublements astral. C'est-à-dire, ce n'est pas un pouvoir psychique spécifique. Nous le faisons tous. Tous ceux qui sont dans cette salle et tous ceux qui ne sont pas dans cette salle font des dédoublements astraux parce qu'on le fait la nuit. Quand nous rêvons, parce que nous appelons le rêve, c'est un dédoublement astral. C'est-à-dire, c'est rentrer, c'est faire que c'est la conscience qui rentre dans d'autres plans. Il y en a d'autres, il n'y en a pas qu'un. Il y en a d'autres, non. L'astral est le premier plan dans lequel rentre la conscience. Et il se passe plein de choses. Parfois des cauchemars, parfois des choses extraordinaires. Mais c'est parce qu'il y a d'autres plans. Et elle a très bien expliqué ça dans un des livres, d'ailleurs, qu'elle a écrit, qui s'appelle « Les rêves intérieurs ». Donc, elle nous apporte une perspective qui est une perspective qui n'est pas celle seulement vivre pour manger, dormir, travailler et avoir des vacances. Pour elle, c'est un peu bizarre. Parce que si on part du principe que l'être humain est une âme immortelle dont l'enveloppe est celle-ci à l'heure actuelle, vous imaginez bien qu'il ne peut pas venir sur Terre juste pour manger, dormir, travailler, payer les impôts, payer les factures. Ça ne ferait aucun sens. Donc ça veut dire que l'être humain a un rôle à jouer et qu'il a quelque chose à établir, mais qu'il doit le rencontrer, évidemment. Parce que tout le monde aimerait peut-être « Ah, mais c'est quoi? Pourquoi ça ?» Oui, mais c'est une démarche intérieure. C'est une démarche de la conscience sensible qui s'éveille pas à pas. Et ça, elle le fait au travers de tout ce qu'elle nous enseigne. Et bien sûr, quand on regarde tout ceci, tout s'en va vers une évolution. Évidemment, aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait se poser la question parce qu'on se dit, mais y a-t-il vraiment évolution quand on se dit, mon Dieu, on reprend toujours les mêmes situations sur cette planète. Et que parfois, on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait sorti de la caverne. Et oui, c'est vrai, mais bon, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. L'évolution est loin d'être linéaire. Elle est cyclique. Elle est cyclique et spiralée, on pourrait dire. Mais évidemment, il va y avoir une tendance à revivre, où on va avoir l'impression de revivre les mêmes situations, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des nuances différentes, parce qu'à l'intérieur de ces situations, de ces cycles dont on a l'impression qu'ils se répètent, il y a une conscience qui est différente. Ça bouge pas vite. Oui, c'est vrai, ça bouge pas vite. C'est-à-dire que il semble que la conscience humaine met beaucoup de temps pour comprendre un certain nombre de choses dans la vie. Pour tout ce qui est technique, vous avez vu, on est ultra rapide. T'as 2 ans et tu sais utiliser ton ordinateur, disons. Donc vous avez vu que c'est pas là le problème. Mais c'est l'aventure intérieure de l'être humain qui est à comprendre. Et ça, on dirait que c'est plus complexe. Et en même temps, dans la société dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle, l'époque historique, nous sommes très divertis. Il y a un divertissement incroyable. Si tu es diverti, tu es à l'extérieur et tu n'es pas à l'intérieur. Tout ce qui se passe dans notre société, dans notre époque historique, en fait, est en train d'altérer nos pouvoirs intérieurs. C'est en train de complètement freiner les pouvoirs intérieurs, mais par contre de surexciter. Et on va chercher à l'extérieur les solutions qui sont en fait à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous manque ? La méthode. C'est ça qui nous manque. Et c'est ça qu'elle a essayé d'apporter. Bon. Un extrait. Parce que je parlais tout à l'heure de méthode avec la voix du silence. Il faut que je la passe. Hein. Oups. Ouais, tu l'avais passé. La voix du silence est ce texte qui nous dit que nous allons passer symboliquement par 3 salles. Mais il y a, pour accéder à une vérité plus évidente, il y a des pas qui sont à faire. Alors je vais lire parce que c'est tellement beau, parce que c'est comme ça que tout est écrit tout le long de la voix du silence. C'est ça qu'elle a ramené de mémoire. 39 préceptes. Qui s'appellent les préceptes d'or. Alors, que dit la voix du silence ? Laisse ton âme prêter l'oreille à tout cri de douleur, comme le lotus met son cœur à nu pour boire le soleil matinal. Ne permets pas à l'ardent soleil de sécher une seule larme de souffrance avant que tu n'aies toi-même essuyé les yeux affligés. Mais laisse toute larme humaine tomber brûlante sur ton cœur et y rester, et ne l'en efface jamais avant que soit disparue la douleur qui l'a causée. Homme au cœur plein de compassion, ces larmes sont les ruisseaux qui arrosent les champs de l'immortelle charité. Donc là, déjà, ça veut dire que c'est un état de grande réceptivité, mais pas simplement, ne solutionne pas les problèmes seulement à l'extérieur, mais va déraciner la cause. Non, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'il faut que tu entendes bien qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu cherches à comprendre ce qui exige de nous une implication totale. Ce qui nous oblige une révision totale de nous-mêmes. Parce que c'est sûr que la tendance, c'est d'essayer de consoler ou d'essayer d'aller donner quelque chose pour compenser. Mais en réalité, ce qu'on nous demande, c'est un acte presque politique. C'est-à-dire de pouvoir réussir à déraciner la cause des problèmes. Et ça, ça ne peut pas se déraciner comme ça. Alors c'est... aujourd'hui, quand on entend « on va résoudre tel problème par telle situation, etc. », on voit bien qu'on ne va pas à la cause. Alors on est toujours en train de mettre des patchs. Et c'est pour ça que tout s'envenime, tout se dégrade en réalité, alors que on devrait beaucoup plus s'impliquer, nous, en tant qu'être humain, et c'est le cœur qui doit s'impliquer. C'est une question d'amour. D'amour à l'humanité. Et Madame Blavatsky a été une grande preuve de cet amour à l'humanité parce qu'elle a dédié sa vie pour ça. Dédié sa vie tout en étant été attaquée, traitée de tous les noms. Bref, il lui est arrivé tellement de choses. Et elle a continué sa mission. Pour que nous puissions peut-être faire quelque chose. Je réinsiste. Elle expliquait que le XXe siècle allait prouver avec les meilleurs moyens tout ce qu'elle a dit. Et je pense que c'est vrai, en grande partie, on a réussi. Voilà, on va rentrer. Et par contre, le XXIe siècle, elle disait que normalement, au XXIe siècle, nous devrions être beaucoup plus ouvert et beaucoup moins étroit d'esprit. Pour pouvoir aller de l'avant. Et une autre phrase d'elle, honorer la vérité par ses actes. C'est-à-dire que si vraiment nous sommes sensibles et que nous voulons chercher la vérité, elle doit être présente dans nos actions à tous les jours et pas seulement dans une démarche intellectuelle, parce que ça ne sert à rien. Parce qu'elle, elle l'a vu de son époque, elle a vu qu'il était aussi dans un siècle d'intellectuels. Et nous aussi, nous savons très bien ce que fait l'intellectualisme, ou ce que ne fait pas l'intellectualisme, plus exactement. Surtout de ne pas se remettre en question. Et donc, nous sommes dans une croisée des chemins, parce que nous, on vient de parce que, bon, on est en 2018, bon, on est encore à la... c'est la queue de 2000... en fait, du XXe siècle, hein, 18 ans, c'est rien ça. Donc c'est la queue du XXe siècle et on est à l'aube hein, de ce XXIe siècle. Et donc, elle dit, mes textes ne sont pas pour mon époque. Elle n'a pas écrit pour le XIXe siècle. Elle a écrit pour le XXe, pour qu'on prouve ce qu'elle va expliquer, et pour le XXIe. Qui est supposé faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'elle nous lance un défi, là. Elle nous lance un total défi. Il ne faut pas penser à la société théosophique. Oui, la société théosophique va faire. Non, la société théosophique s'est fermée progressivement. Il y a encore quelques centres ici et là, mais on peut faire. Le centre le plus actif, c'est Adyar, qui sont les éditions de ces livres. Mais c'est tout. Donc il y a un défi qui est lancé. Le défi qui a été lancé, il y a quelqu'un qui l'a repris. Et qui l'a repris dans les années 50, au moment de la fermeture de l'école interne. Et heureusement qu'il l'a repris, parce que sinon on ne serait pas là. Et c'est pas qu'il était seul, hein. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des essais. Et le seul essai qui est resté, c'est le fondateur de Nouvelle Acropole. Mais ils étaient 8 à avoir essayé. Parce que c'est le président de la société théosophique de l'époque qui avait voulu tout renouveler. Sriram. Donc il y avait 8 candidats. Et parmi les 8 candidats, il y avait donc Georges Livraga. Cet autre, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais la seule chose qu'on a su, c'est que ça s'était fermé. Et donc reste Nouvelle Acropole. Et voilà. 1957, naît Nouvelle Acropole. Et on a célébré, il n'y a pas si longtemps que ça, nos 60 ans. C'est à la fois beaucoup et peu en même temps sur un axe de l'histoire. On fait des erreurs. Parce que quand je suis rentrée à l'Acropole, il y a très très longtemps, il y a quelques siècles. Et jamais j'aurais pu imaginer de rencontrer ce que j'allais rencontrer. Moi, je m'inscrivais... Enfin, je vais vous expliquer. J'ai vu une annonce avec un petit temple grec. C'était l'Acropole, en fait. C'était marqué « Philosophie d'Orient d'Occident ». Moi, j'ai dit « Moi, je veux m'inscrire au temple ». J'étais persuadée, en venant à la présentation, celle dont a parlé Michel, que j'allais venir, que j'allais rencontrer le temple. Et j'ai rencontré une vieille porte grinçante, un immeuble sombre et bon, un appartement un peu étrange. Mais une ambiance à l'intérieur incroyable. Jamais j'aurais pensé que 40 ans plus tard, j'y serais. Cette année, je fête mes 40 ans à l'Acropole. Quelle aventure incroyable! C'est l'aventure où chaque fois on devient plus humble, puisque quand j'avais suivi mes quelques cours de premier cycle, avec tous mes amis, asseyez-vous, moi je sais. Je vais vous expliquer le septenaire. Alors déjà pour le septenaire. Oui, moi je sais ce que c'est le septenaire. Et plus j'ai avancé dans ce parcours incroyable, et plus j'ai compris ce que disait Socrate. Au début, quand Socrate, on me disait « Ah, Socrate, la phrase célèbre, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Je dis « Ça se peut pas. Ça se peut pas. » Il savait plein de choses. Oui, il savait plein de choses, mais il savait surtout tout ce qu'il ne savait pas. Et c'est ça qu'on arrive à découvrir sur ce magnifique chemin qui n'est pas de l'occultisme pratique ou de l'ésotérisme pratique, mais qui s'appelle philosophie pratique ou philosophie appliquée, et qui est la grande découverte de tous ces textes, de toute cette aventure de l'humanité, parce que l'humanité est en nous, l'humanité est à l'intérieur. Et Noël l'Acropole ne s'est pas constitué comme une religion ou comme un parti politique ou quoi que ce soit, mais comme une école de philosophie à la manière classique. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire qu'on peut aborder beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de rencontres. Et surtout, il y a un espace de pratique. Comment faire ? Parce que quand on s'intéresse justement à tout ceci, mais comment faire après, une fois que tu contactes cette essence-là, un peu de sagesse, comment tu fais pour travailler avec ça ? Tu peux pas. Tu as besoin d'un cadre, tu as besoin d'une formation, tu as même besoin d'épreuves. Ouais, je passais des épreuves. Hein. Jamais j'aurais pu imaginer que je passerais des épreuves. Et je vais en passer d'autres. Je le sens. Mais on est tout le temps en train de passer des épreuves. Donc, moi, je profite de cette conférence pour remercier le fondateur de Nouvelle Acropole, qui n'est plus vivant, parce que c'est une aventure qui ne se termine pas pour moi. Que plus j'avance et plus je découvre le merveilleux des enseignements. Et pas des enseignements intellectuels, mais des enseignements de l'âme, des enseignements de la conscience. Et je pense que c'est une opportunité, comme l'a fait Madame Blavatsky, c'est une opportunité pour tous ceux qui veulent rencontrer quelque chose de spécial. Parce qu'ils le sentent à l'intérieur d'eux. C'est pas quelque chose qui doit naître de l'intellect. Non, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de soi et parce qu'on sent que c'est le bon moment. Alors, je sais que je n'ai pas tout dit de Madame Blavatsky, mais bon, il est presque minuit et demi. Donc, il reste quelques minutes pour poser des questions et ça me fera plaisir. Si je sais, j'y répondrai. Je ne connais pas tout, hein, de Madame Blavatsky. Il y a des zones d'ombre pour moi, mais ça fait longtemps que je donne maintenant des activités sur elle, mais quand je relis, chaque fois c'est quelque chose de spécial. Chaque fois il y a un mouvement intérieur qui se passe. Chaque fois les petits bobos du petit quotidien disparaissent complètement. Vraiment. Parce que parfois on se tire les cheveux pour des petits problèmes de rien. Et tout d'un coup, tout s'efface. Et tout devient magnifique. Parce que il serait dommage que l'être humain soit réduit à une vie si banale, si ordinaire, qu'on nous présente aujourd'hui comme quelque chose de génial. Excusez-moi là, mais c'est quand même pas mal ordinaire. Pas mal ordinaire. Et à force de vivre dans une vie ordinaire, l'état d'esprit devient extrêmement petit. Et avec une sensation d'incompétence, une sensation d'impotence, enfin, tout ce que vous voulez. Non, l'être humain peut faire beaucoup. Comme disait le fondateur de Nouvelle Acropole, la clé, la solution à tous les maux, c'est l'être humain. Mais un être humain renouvelé. C'est pour ça qu'on est pour le renouvellement. La rénovation des routes et rénovation de l'être humain. Si l'être humain devient meilleur, alors c'est sûr que le monde va devenir meilleur. Mais il ne faut pas simplement le rêver. Parce que avant que je rencontre l'Acropole, moi je rêvais d'un monde meilleur. Mais j'étais dans mes rêves là. Ça flottait. Je lisais. Oui, Dieu existe parce que j'ai rencontré l'Acropole. Sinon, je me serais retrouvée avec un sentiment d'impuissance totale. Et c'est très dur. Moi, je crois que c'est très dur pour l'être humain de sentir qu'il ne peut rien faire dans ce monde. Parce qu'il il est à feu et à sang, ce monde. Et pas seulement avec les guerres, pas seulement avec les horreurs qui se passent d'une manière tellement évidente, mais aussi la perte de l'espoir. La perte de l'espoir. Terrible. Perdre espoir en soi-même et perdre espoir en l'humanité. Ça, c'est dur. Tellement qu'on est capable de dire que mais ce sont les machines qui sont le futur. C'est la technologie qui est le futur. Ou c'est l'être humain additionné de quelque chose qui est le futur. Non, l'être humain a déjà beaucoup à lui, mais, en lui, mais il faut le réveiller. Il faut réveiller ce qui se passe à l'intérieur. Et bien sûr que ça prend une méthode, mais une fois qu'on rentre à l'intérieur, waouh, c'est comme d'apprendre à jouer du piano ou du violon. Vas-y, suis la méthode et après tu vas pouvoir être totalement autonome avec cette musique intérieure. C'est très important que tous ces enseignements soient le plus possible divulgués. Parce que l'être humain va reprendre confiance en lui-même. Il va savoir qu'il peut faire quelque chose. Vraiment. Et qu'il n'est pas tout seul. Parce que ce que j'aime de Mme Blavatsky comme de l'Acropole, c'est que tout ceci est un peu pour réunir tous ceux qui se sentent orphelins d'un monde vrai, d'un monde authentique, d'un monde profond. C'est ça qui nous manque complètement. Et je crois qu'il y a pas mal d'orphelins dans ce monde. Alors voilà, moi je pourrais continuer de parler longtemps, mais bon. Peut-être il y a quelques questions, alors on va se donner du temps. Oui.
L'épisode de Krishnamurti.
Oui.
C'était quoi le rapport avec la dissolution?
Lui va arriver un petit peu plus tard, et effectivement, lui, ce qu'il va dire. Non, il ne va pas dire. Certains, comme ils ont perdu le lien, la ligne Blavatsky, parce qu'il y a la ligne Blavatsky et il y a la ligne de la société théosophique. C'est ça qui va se passer. C'est que la société théosophique ne va pas suivre exactement la ligne Blavatsky. Et dans la ligne de la société théosophique, beaucoup vont être émerveillés par Krishnamurti qui effectivement fait des petits prodiges et vont dire de lui que c'est le nouvel avatar. En fait. Quelle est l'erreur qu'il aurait faite de laisser dire cela? Voilà, c'est tout. Parce que le fondateur de Nouvelle Acropole, il se faisait dire, il avait 17 ans, il commençait à faire des conférences à la Société théosophique, et les gens disaient « Ah, le nouveau petit Krishnamurti !» Et il dit « Non, c'est Georges Livraga. » C'est très important de ne pas se faire prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, voilà. Et lui, de toute façon, Krishnamurti va avoir son autre ligne, qui est de ne pas suivre des maîtres en particulier et qui n'a rien à voir donc avec ce qu'a expliqué Madame Blavatsky, dans le sens que, parce que évidemment on pourrait faire totalement une conférence sur Madame Blavatsky, les maîtres de sagesse, parce que c'est toute la ligne maître-disciple qu'elle est en train d'expliquer et qu'elle a essayé de mettre en place et qu'elle a plus ou moins réussi, mais la pauvre elle avait déjà fort à faire. Mais ça veut dire, elle a essayé de faire comprendre que l'humanité a des pères. Pères dans le sens, disons, elle peut être éduquée par les maîtres de sagesse. Mais pour cela, il y a une méthode de travail. Le premier état, le premier prérequis, c'est l'humilité. Quand on lit, pas seulement Madame Blavatsky, mais d'autres sages ou d'autres philosophes, c'est un des dénominateurs communs, c'est l'humilité. À la base. Pas la fausse humilité. Oh non, moi je sais pas, mais si, si, dedans je sais, je vais démontrer que je sais. Non, 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 non. Et parfois, pour arriver à la vraie humilité, ça peut prendre toute une vie, peut-être plusieurs même. Ça, c'est ça la complexité. Donc, tous les chemins, il y a beaucoup de personnes qui ont promu un chemin individuel. Est-ce mauvais ? Moi, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. La seule chose que je dis, c'est que la ligne Blavatsky a expliqué que nous avons tous besoin d'un professeur, entre guillemets. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait plus que nous. Il y a quelqu'un qui a marché. Il y a une conscience plus avancée que nous. Et que nous, parce que nous, tout seuls, on va tout le temps déformer les éléments, on va toujours déformer ce qu'on est en train d'apprendre. Comment vérifier si ce que j'ai compris, je le mets bien en pratique? Un musicien qui veut apprendre, ou quelqu'un qui fait du théâtre ou de la danse, a besoin d'un maître. Il a besoin. Il a le droit de refuser, mais donc ça va lui prendre beaucoup de temps par lui-même. Alors on va dire, oui, mais par exemple, Mozart, lui, il a eu son premier maître, c'était son père. Et lui, effectivement, il est venu quand même à quelque chose de spécial, non ? D'ailleurs, lui, il s'était inscrit à la franc-maçonnerie. À l'époque, comme c'était la seule chose qui existait, il s'était inscrit à la franc-maçonnerie parce qu'il voulait que sa musique soit une musique spirituelle. D'ailleurs, elle l'était. Bizarre, hein ? C'est spécial. Mais bon, bien sûr qu'il va y avoir des individus qui vont présenter dès le départ, mais Blavatsky va dire que elle va jamais dire qu'elle est un maître, hein. Moi, j'estime que c'est un maître, mais elle va dire, moi, je suis disciple. Je suis les consignes de mes maîtres. Et elle va être une preuve. Toute sa vie va être une preuve exemplaire, sauf les 10 ans où elle a... ça a mis 10 ans pour rentrer au Tibet, là. Bon. Mais toute sa vie va être la preuve de son amour pour ses maîtres. Et en même temps, de suivre les consignes. Et heureusement qu'elle a fait ça. Parce qu'à la fois, on peut dire, elle est disciple et maître en même temps. Et quelque part, ça se conjugue très très bien. Parce que si vraiment cette ligne-là, elle existe, ça veut dire que tout maître est disciple d'un autre maître. C'est merveilleux. Plus ou moins, c'était transmis dans la guerre des étoiles. Star Wars. Hein ? Mais les premiers... dans les années 80. Bon, c'était Campbell qui avait mis, qui avait inspiré l'auteur de La Guerre des Étoiles. Comment il s'appelle d'ailleurs ? Lucas. Mais Campbell aussi a été inspiré par Madame Blavatsky. Et donc c'était, de manière moderne, remettre au goût du jour la ligne maître-disciple. Parce que quand, je ne sais pas si vous les avez vus, les films des années 80, moi oui, parce que c'est de mon époque... Hélas. Mais à un moment donné, Luke Skywalker cherche le maître. Puis il voit un petit machin là, moche, bizarroïde, etc. Puis presque il lui fout un coup de pied, quoi. Hein? Mais c'est très bon du point de vue de la mythologie, parce que le maître va se présenter sous une forme très particulière. Justement pour tester. Dans les paraboles, dans des paraboles du bouddhisme, par exemple, on a énormément de choses comme ça. Énormément de choses comme ça. Et le maître, il est partout. Sous une forme à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est justement là où on se révèle intérieurement. Pour ça, c'est éminemment pratique. C'est la philosophie ou l'ésotérisme selon Mme Blavatsky, c'est éminemment pratique. Il n'y a rien d'intellectuel. C'est pour ça que si je veux savoir où j'en suis, c'est de savoir comment je réagis aux situations déjà dans ma vie. Comment je me relie avec les autres. Déjà juste ça. Ah, tu veux progresser, tu veux te libérer de certaines petites choses, mais oui, tu peux parce que Tout ça, tous ces enseignements sont là pour ça. Orient-Occident. C'est-à-dire, il n'y a pas... Il n'y a pas une philosophie qui est meilleure que l'autre ou un enseignement qui est meilleur que l'autre. Ils vont tous apporter des compléments. C'est pour ça que j'aime bien l'idée du bouquet de fleurs dont parlait Madame Blavatsky. Tout ça sont des fleurs et nous on fait un bouquet. Alors Orient-Occident, c'est un bouquet. On inspire et hop. Et ça-ci nous accompagne dans la vie et on ne se sent plus seul après. On ne se sent plus seul. Même dans les moments les plus difficiles, on ne se sent plus seul. Parce que là, on est en contact de ce qui est vrai. Tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est très sympathique. Hein. iPhone, Facebook, Twitter, machin de truc, Trump, blablabla. C'est assez rigolo, mais tellement vide. Tellement vide. Vide de sens. Et ce qui est en nous, aspire à quelque chose d'autre. Mais il faut simplement être en contact avec ce qui est en nous. C'est-à-dire en contact avec l'intériorité. Bon, je vous endors là. Hein. Je sens que je vous endors. Sanzar. Apparemment, non. Pas du tout. Non plus le sanskrit. Mais on peut accéder à ces textes maintenant. Alors, juste voir. Mais si ça vous intéresse de faire de la traduction, je pense que il suffit juste de s'inscrire pour s'initier. S'inscrire à l'initiation. C'est juste ça à faire. L'initiation.
J'avais une question. Plus général. Si j'ai bien compris tantôt, Madame Blavatsky, elle a comme affirmé qu'elle est allée chercher en Orient des écrits qu'il y a très très longtemps, l'Occident avait déjà eu, mais qui les ont perdus.
Oui, entre autres.
Entre autres. Et selon la date que vous avez donnée, ça correspondait aussi à l'instauration de l'Église romaine, où il y a beaucoup de choses, entre autres avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie.
Qui s'est perdue.
D'accord. Ben oui. Ma question était, est-ce que Mme Blavatsky, est-ce qu'elle, dans ses écrits, parce que moi, j'ai beaucoup vu sur Internet beaucoup de conférenciers qui ont parlé d'elle, mais là, je m'attaquais plus à ses livres. Est-ce que, à travers ses expériences, à travers sa vie, elle a senti que la lumière qu'elle voulait amener au 19e siècle, elle sentait qu'il y avait un mur, je veux dire, un adversaire qui ne voulait pas que, un peu comme il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a amené, s'est lavé une lumière, puis on a fini par le crucifier. Là. Dans le sens que, est-ce qu'elle sentait que ça ne faisait pas l'affaire de soi-disant, je ne dirais pas du gouvernement, mais les bien-pensants, là, que, est-ce qu'elle dévoilait
oui,
fallait
mais
que ça reste tel quel, puis qu'il fallait étouffer son cas, elle.
C'est certain qu'on voit très bien que pour beaucoup de gens qui l'ont côtoyé, dans les biographies, c'est complètement occulté. Hein, c'est-à-dire la rencontre avec Mme Blavatsky, etc. Mais elle ne s'est pas attachée à ça. Quand on lit dans Occultisme pratique ou même dans la Doctrine secrète, on voit des passages. Non, parce qu'il y a elle, mais il y a aussi d'autres qui sont intervenus entre-temps, parce que il y a quand même eu Hypatie qui est intervenue, 4e siècle après Jésus-Christ. On sait comment elle a fini. Il y a eu Giordano Bruno, Renaissance, qui a fait un travail majeur, et elle intervient 19e siècle. Donc, ce qui veut dire que sur une époque historique, même large, il y a des tempos, il y a des rythmes. Ça veut dire qu'il y a des êtres qui apparemment sont dédiés et se dédient, et sont comme des messagers quelque part. Parce que, par exemple, quand on parle de Jésus-Christ ou de Bouddha, Ce sont des avatars religieux. Mais il n'y a pas que des avatars religieux. C'est ça aussi la nuance. Donc, parce que nous, évidemment, pour nous, c'est évident, ou si on parle d'Orphée, ou Zoroastre, par exemple, ou Vyasa, mais ça, c'est une ligne qui est une ligne spécifique. Et il y a plein d'autres individus. Parce que tous ces individus qui vont intervenir à un moment donné, ils vont faire éclater, en fait, des opinions, des préjugés, et faire sortir une vérité qui, dans le moment, par exemple, Giordano Bruno, quand il va dire tout ce qu'il va dire, ça va lui valoir le bûcher. Et ça va être seulement 400 ans plus tard qu'on va le réhabiliter. On va dire que tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Mais bon, on va le dire très tranquillement, sans non plus faire avec le clairon et tout ça. Tout le monde ne saura pas, hein, c'est-à-dire très modeste. Donc, ça veut dire que, bien sûr, qu'il y a comme une chape de béton avec une façon de penser qui est, comment je pourrais dire, le chemin principal. Et c'est là où on doit marcher. Ceci a été très bien représenté par Platon. Pour ceux qui connaissent un peu Platon, comment ça a été représenté par Platon ? La caverne. La caverne, c'est-à-dire un endroit où tu es attaché et tu regardes droit devant toi et tu vois défiler des ombres, et ce sont les gens qui sont derrière qui font une sorte de jeu d'ombre. C'est un peu comme une salle de cinéma, si vous voulez, et ce qui est projeté là est la vérité. Et il y en a un.
Ça n'a pas changé aujourd'hui.
Non. Exactement. Et c'est pour ça que ça prend des individus dans l'histoire. Des individus ou des collectivités ou des organisations qui osent casser les habitudes de la caverne, comme disait Platon. Puisque Platon va quand même expliquer qu'il y en a un qui se déchaîne, qui se désenchaîne, parce qu'il voit une autre lumière. Et donc il sort, il arrive à sortir de la caverne, mais on dit qu'il est ébloui par la lumière du soleil, parce que c'est sûr que quand on vient de la pénombre et quand on sort au soleil, donc ça veut dire, ça c'est pour représenter l'aveuglement, c'est-à-dire une réaction intérieure face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Ah ouais, bien sûr, des réactions face à ce qu'on ne connaît pas, il y en a plein. Puis on dit qu'il s'habitue et qu'il devient émerveillé. Mais l'histoire ne finit pas là, parce que ça, c'est le philosophe. Mais c'est le philosophe qui devient politique, parce qu'il retourne dans la caverne pour dire aux autres, ça, c'est pas là, c'est d'autre côté. Et on nous dit qu'il se fait envoyer des roches. Ben voilà. C'est ce qui est arrivé à Hypatie, c'est ce qui est arrivé à Giordano Bruno. Hypatie, vous pouvez voir, si ça vous intéresse, il y a un très bon film qui s'appelle Agora,
ouais,
qui parle de l'histoire, évidemment. Vous savez que ça a été interdit, ce film-là, et il est passé, je crois, juste à Toronto, et puis une autre ville au Canada, je ne me rappelle plus laquelle.
Raquel Welch.
N'était pas... Oui, c'est ça. C'est ça.
Oui, oui.
Alors, la fin n'est pas exacte, mais ce n'est pas grave, parce que tout le reste est bon.
C'est parti du mouvement gnostique.
Oui. Mais la véritable fin pour Hypatie, c'est qu'elle va se faire écorcher vive avec des coquilles d'huîtres. Intéressant, n'est-ce pas, pour avoir dit des vérités. Mais ce sont les pères de l'Église qui vont fanatiser quelques moines et qui vont faire ça. Ouais, les débuts, on oublie, parce que là en ce moment on parle de l'islam, etc., mais on oublie que les débuts le début de l'Église a commencé d'une manière très très dure. On oublie trop souvent ça. Ce n'est pas pour justifier ce qui se passe, hein, certainement pas. Mais attention, dès qu'on rentre dans l'ignorance, dans la superstition, dans une étroitesse d'esprit, et ceci est valide partout, pas seulement en philosophie ou pas seulement en religion, mais en science aussi. Il y a l'étroitesse d'esprit. Vous n'avez jamais rencontré un médecin étroit d'esprit ? Partout. C'est-à-dire l'étroitesse d'esprit est le vrai blocage. Parce que dès que tu t'ouvres et que tu apprends à réfléchir, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Mais ça, c'est en relation avec nous-mêmes. Personne ne peut nous obliger à faire ça. Personne ne peut nous convaincre de nous ouvrir, de oser dépasser disons, des peurs. Personne ne peut le faire. Alors c'est vraiment une relation intime avec nous. Hein. Bon, voilà. Il est minuit moins 10, moins 5. Je suis sûre que là, il y a le métro à prendre. Je suis sûre qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. C'est un être fantastique. Je vous invite vraiment à découvrir encore plus et de lire. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Moi, je me suis retrouvée dans une ambiance blavatskienne. Merci à Madame Blavatsky, sincèrement. Merci pour toute son œuvre. Merci. À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.